Donc je reprends. Donc je disais, c'est pas facile de pratiquer les fruits de l'esprit. Parce que la Bible parle constamment d'une opposition aux fruits de l'esprit. Et je voudrais juste lire le texte et le remettre dans son contexte pour que vous puissiez bien comprendre ce qui va être dit ce matin. Galates, chapitre 5, et je vais lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 23. Mais je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est point contre ces choses. Un deuxième texte que je voudrais accompagner ce matin, c'est l'évangile de Matthieu, le chapitre 7. Évangile de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, voilà un petit peu l'introduction ce matin. Les fruits de l'esprit, en tout cas ceux que nous trouvons dans le livre de Galates, doit avoir dans notre vie un impact, un impact positif. Si cet impact est positif, automatiquement, nous porterons des fruits de l'esprit dans nos relations avec Dieu, dans les relations avec les autres, dans les relations même avec nous-mêmes. Regardez quelques exemples. Quand, par exemple, quand on parle de l'esprit de la chair, eh bien, les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est l'idolâtrie, c'est le péché. Donc, ça nous éloigne automatiquement de Dieu. Quand on parle avec les autres, les relations avec les autres, eh bien, on va parler de rivalité, de querelle, de jalousie, d'animosité, de dispute, de division, de rupture, de séparation. Donc, toutes ces choses sont là pour nous montrer que le mauvais fruit peut nous éloigner complètement de l'autre. Et en même temps, quand vous regardez avec soi-même, eh bien, on parle de la débauche, de l'impureté, des dérèglements, de culpabilité aussi. Mais je ne voudrais pas rester dans cet aspect négatif des choses. Je pense que le Seigneur nous a donné les moyens pour cultiver ces fruits de l'esprit. Et je voudrais terminer, en tout cas conclure ce matin que Dieu nous a donné tous les moyens pour que nous puissions les cultiver, ces bons fruits de l'esprit, et ne pas cultiver les fruits de la chair. Alors, regardons ensemble comment cultiver ces bons fruits de l'esprit dans notre vie. Tout d'abord, je pense que chaque chrétien, et si vous ne l'êtes pas, eh bien, je voudrais vous dire simplement que Satan nous a déclaré la guerre. Alors, c'est une guerre qui dure 24 heures sur 24. Pensez que Satan est quelqu'un qui se repose quand vous vous reposez. C'est ce bercy d'illusions. La Bible nous parle d'une guerre spirituelle invisible dans les lieux célestes, Éphésiens chapitre 6, verset 12, et croire que notre vie va être un bon fleuve tranquille, je le pensais quand j'ai pris l'avion pour aller aux États-Unis, que j'allais avoir une vie tranquille aux États-Unis. Oui, pendant quelques heures. Et puis je me suis fait vite à la réalité que même aux États-Unis, il y a plein de problèmes. Il ne faut pas croire que les États-Unis, il n'y a pas de problème. Aux États-Unis, il y a aussi des problèmes. Et ce n'est pas un long fleuve tranquille d'aller aux USA. Les chrétiens vivent aussi des moments difficiles là-bas aux États-Unis. Les églises aujourd'hui se désertifient. Aux États-Unis, penser que les églises sont grandes, oui, il y en a certaines qui sont grandes, et d'autres se vident, et je pense que c'est un combat spirituel, et le croire et le penser, je pense que le diable fait tout ce qu'il faut pour détruire les chrétiens. Voici un petit peu quelques idées que nous avons dans la parole de Dieu, et qui nous obligent à être vigilants tous les jours. Tout d'abord, le diable, dans la parole de Dieu, nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Il le fait dans chacun d'entre nous. Hein. Il va venir de temps en temps et puis il va rugir autour de nous. Il va nous faire peur. La Bible nous dit qu'il nous aveugle l'intelligence. Il aveugle notre intelligence. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Il cherche à ôter la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu sème en vous des bonnes choses et Satan va tout faire pour venir retirer ce que Dieu essaye de semer pour que vous puissiez grandir dans votre vie. La Bible nous dit que Satan sème le doute. Depuis le commencement, Satan a commencé à semer le doute. Il continue à le faire encore aujourd'hui. Il accuse les justes, Zacharie chapitre 3, verset 1. Il attaque, il afflige l'homme de Dieu. Il tente l'homme de Dieu. Il a tenté Jésus. Nous ne sommes pas plus que le maître. Il nous tentera jusqu'à la fin. Il va ruiner, il va essayer de ruiner notre âme et notre corps. Il va aussi être menteur, puisque la Bible dit qu'il est le père du mensonge. Et pour terminer, la Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. Voilà ce que Satan fait dans son quotidien. Mais je voudrais quand même vous donner les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions cultiver ces bons fruits de l'esprit. Tout d'abord, le premier moyen que Dieu nous a donné, c'est qu'il nous a donné une armure. Et là, et les armes que Dieu nous donne, c'est lui qui les a créées, afin que nous puissions résister et tenir ferme. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17, nous invite à être armés jusqu'aux dents. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, être armé jusqu'aux dents. Mais est-ce que nous comprenons réellement la lutte que nous avons amené ici-bas? Je pense que quand on se lève le matin, qu'on se lave et quand on s'habille, on oublie souvent l'armure spirituelle que Dieu nous a donnée et pourtant elle est là pour nous faire du bien dans notre quotidien. Le Seigneur nous a donné la ceinture de la vérité. Est-ce que nous n'en avons pas besoin aujourd'hui de cette ceinture de vérité dans le quotidien? Auprès de nos collègues, auprès de nos amis parfois, auprès de nos parents, est-ce que nous n'avons pas besoin de mettre cette ceinture de vérité? Est-ce que nous n'avons pas besoin parfois dans notre journée de la cuirasse de la justice? Vous savez, nous sommes dans une société injuste et parfois je me dis mais le monde est vraiment injuste par rapport à certaines situations. Mais nous en tant que chrétiens, nous avons cette arme fournie par Dieu, la cuirasse de la justice. Troisième arme que Dieu nous a donnée, les chaussures pour porter l'évangile aux autres. Les chaussures pour porter l'évangile aux autres. Troisième arme, quatrième arme, le bouclier de la foi. C'est nécessaire, vous savez, dans notre société. Vivre par la foi, c'est biblique, c'est chrétien, d'être dire on vit par la foi. On ne voit pas toujours le lendemain, mais le Seigneur dit, c'est pas parce que tu vois pas demain que je ne serai pas avec toi demain. Donc n'oublie pas le bouclier de la foi et le casque du salut, tellement nécessaire. Ce casque pour éviter pas mal de coups parfois dans notre monde du monde. Et pour terminer, l'épée de l'esprit. Toutes ces armes ont été créées par Dieu pour vous, pour que vous puissiez être équipés dans votre quotidien à mener cette lutte que Satan va faire pour vous détruire dans votre quotidien. Deuxième moyen, c'est reconnaître qu'il y a un combat. Il est invisible, il est intérieur, il existe. L'apôtre Paul disait une parole que bien souvent on a eu du mal à comprendre, mais regardez ce que l'apôtre Paul a dit à un moment donné en Romains chapitre 7, verset 19. « Je ne fais pas le bien que je veux. » Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question. Est-ce que tu fais le bien que tu veux? Et il rajoute « Je fais le mal que je ne veux pas. » Il y avait vraiment une lutte hein, dans son corps et dans sa vie. Il prenait conscience que ce combat était quelque chose qui le tiraillait dans son quotidien. Il y avait une lutte avec la chair et le corps, donc il y avait l'esprit en lui. Donc Paul prenait conscience que c'était un combat quotidien. Paul prenait conscience par l'esprit de Dieu que ce combat, il allait le mener jusqu'à la fin de son existence. Et je pense que l'esprit de Dieu devait l'aider justement dans son quotidien. Est-ce que nous prenons conscience que ce combat, il est au quotidien? Il n'est pas parce que je vais vous le rappeler aujourd'hui, mais à partir de demain matin, quand vous allez vous lever, le combat va continuer dans votre vie. La Bible dit aussi que le troisième moyen, qu'il faut résister au diable. Et la Bible dit qu'il fuira loin de vous, Jacques chapitre 4, verset 7. Et quand Satan est venu attaquer Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il lui a répondu par la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quiconque a deux tranchants. Hébreux chapitre 4, verset 12. Quand Satan nous attaque, nous devons répondre avec la parole de Dieu. Quand je vous dis depuis le début de l'année que c'est important de connaître la parole de Dieu, moi je pense que quand Satan nous attaque, nous devons lui répondre, non pas avec une philosophie humaine, non pas avec une pensée que vous avez entendue durant la semaine, non, avec la parole de Dieu. Vous devez vous défendre avec la parole de Dieu quand Satan vous attaque. Troisième, quatrième moyen que Dieu nous laisse, c'est un verset que je voudrais lire, que vous connaissez peut-être, Galates, chapitre 5, verset 24, qui nous dit « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Vous avez, quand vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez crucifié la chair. Alors vous allez dire, ben moi, j'ai pas crucifié ma chair. Hein. Dans la réalité, vous avez crucifié la chair. Parce que Jésus-Christ l'a fait à votre place. J'ai envie de vous lire un petit commentaire que j'ai trouvé dans ma bibliothèque. C'est John Stott. John Stott est un commentateur de la parole de Dieu. Il a écrit des commentaires de la Bible, entre autres l'Épître aux Galates et Appelé à la liberté. Je ne sais pas si vous connaissez ce commentaire. Et voici ce qu'il dit sur le passage, en tout cas que je viens de citer là, Galates chapitre 5, verset 24. « Quand une pensée impure, malveillante ou empreinte de jalousie envahit notre esprit, nous devons la chasser sur le champ. » sur le champ. Il est vital de commencer à examiner, à nous demander si nous allons lui céder ou pas. Nous lui avons déclaré la guerre, par conséquent, nous n'avons pas à reprendre les négociations. Je ne sais pas si vous comprenez la pensée. Jésus-Christ, l'a cloué sur la croix, la chair, nous n'avons pas à reprendre les négociations avec notre chair. Et bien souvent, on perd pourquoi ? Parce qu'on négocie avec le diable. Jésus a vaincu toutes ces choses à la croix. Et malheureusement, aujourd'hui, nous portons des fois du mauvais fruit parce que nous négocions avec la chair, qui a été clouée sur la croix avec Jésus-Christ. Et je pense que quand on comprend cela, eh bien, nous devons comprendre que nos péchés ont été cloués une fois pour toutes sur la croix. Il faut les laisser mourir à la croix, nos péchés. Si nous laissons mourir à la croix nos péchés, nous aurons la victoire et nous porterons du bon fruit selon la parole de Dieu, selon ce que la Bible nous dit de porter du bon fruit. Or, à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui et à ses propres projets et à ses plans personnels. Je viens de lire Galates chapitre 5, verset 25, avec la parole vivante. Nous avons cloué sur la croix la chair, et nous devons la laisser à sa place. Cinquième moyen, c'est choisir de servir l'esprit et non la chair. Et ça, c'est dans le quotidien. Choisir de servir un maître implique que l'autre doit, à un moment donné, on ne doit pas le servir. Et cela, le Seigneur nous le montre dans sa parole. Rappelez-vous de Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un et il aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. En parlant de Satan, puisque maman c'est l'illustration de Satan. Le Seigneur nous donne le choix de choisir de vivre selon l'esprit ou de vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez porter à un moment donné du mauvais fruit. Si vous vivez selon l'esprit, eh bien vous porterez du bon fruit. Josué a rappelé ces choses-là aux responsabilités du peuple d'Israël. Et il a dit à un moment donné, « Moi, je vais choisir de servir Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'était un rappel que Josué faisait à un moment donné à la nation d'Israël. Mais c'est important de pouvoir le dire dans notre quotidien. Vous savez, quand vous vous levez le matin, vous dites, « Moi et ma maison, je veux servir l'Éternel. » C'est une bonne chose de le penser. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à nos choix que nous faisons dans le quotidien, nous avons toujours des conséquences. Je veux vous en montrer l'illustration. Quand je suis rentré des États-Unis, j'avais envie d'entendre le français. Alors j'ai appuyé à la télévision, parce que l'actualité américaine, franchement, j'y comprenais rien du tout. Alors ce que je faisais, vous pouvez demander à mon épouse, je mettais des chaînes sportives, au moins le sport. On peut comprendre un petit peu certaines règles. Mais l'actualité, franchement, je ne la comprenais pas. Alors quand je suis revenu en France, j'ai mis une chaîne d'actualité pour savoir un petit peu ce qui s'était passé ces derniers temps. Il y a deux jours, j'ai écouté dans l'actualité un reportage qui disait que les jeunes passent de plus en plus de temps avec leur téléphone portable. Rien de nouveau sous le soleil. Je le savais aux États-Unis, on m'a rien appris en me disant cette actualité. Oui, mais voici ce que le reportage disait, que les jeunes passent de plus en plus de temps avec leur téléphone portable à table. Ah, ça c'est une vérité. J'avoue que parfois, quand on est à table, que ce soit jeune ou adulte, hein, parce que ce n'est pas une histoire de cheveux blancs. Hein. Aux États-Unis, nous étions en train de manger avec des amis, le téléphone il était à table, et quand il sonnait, de suite, notre ami, papa, qui répondait, et on était en train de partager la communion fraternelle, hein, de suite, papa, et voici ce que le reportage disait, les conséquences de cette affaire, ça fait grossir les jeunes de plus en plus. Wow. Voilà une information importante. Les jeunes, si vous avez votre téléphone à table et que vous l'utilisez, si vous ne prenez pas garde, vous allez devenir comme moi. Voilà, si vous ne... Voilà, ça c'est une illustration qui marque. Voilà, je veux vous la laisser dans votre esprit. Si vous ne prenez pas garde, vous allez devenir comme moi. Eh bien, c'est aussi bon pour les jeunes que pour les adultes. Hein. Vous savez, des fois, on fait des choix qui nous éloignent complètement de Dieu. Et après, on s'étonne que dans nos vies, ce n'est pas très bien clair ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Mais voyez-vous, des fois, on lit des livres qui nous éloignent complètement de Dieu. On écoute des choses sur Internet qui nous éloignent complètement de Dieu. On regarde des émissions à la télévision qui nous éloignent complètement de Dieu. On n'est pas mieux en tant qu'adulte aujourd'hui. Et je me dis, voilà une bonne chose que nous devons prendre conscience. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. La Bible dit clairement, ou je sers Dieu et je porte du bon fruit, ou je sers Satan et je porte du mauvais fruit. Nous ne pouvons pas servir de maître. Alors, comprendre le but final. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le but final, c'est de glorifier Dieu. Les bons fruits ont pour but de glorifier, non pas votre famille, votre voisinage, vos proches, c'est de glorifier Dieu. Si vous portez du bon fruit, vous allez avoir une bonne odeur, c'est vrai, dans votre entourage, mais vous allez glorifier Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que quelque part, notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, bien sûr, c'est d'être des témoins autour de nous. Mais en même temps, le but final, c'est de glorifier Dieu. Alors si vous aimez Jésus, si vous aimez Dieu, eh bien je dirais en conclusion, portez du bon fruit. Mettez-vous demain à dire, eh bien voilà, le Seigneur m'a donné tous les moyens nécessaires pour porter du bon fruit et je n'ai pas à négliger cet aspect-là dans ma vie de tous les jours. Je dois porter du bon fruit où ? Dans mon lieu de travail. Je dois porter du bon fruit où ? Eh bien, dans l'église locale. Je dois porter du bon fruit où ? Dans votre famille, entre mari et femme, avec vos enfants, vous devez porter du bon fruit. Parce que les autres, si nous ne faisons pas attention, eh bien, nous allons les reprendre constamment. Et Christ les a crucifiés sur la croix. Je voudrais vous relire un psaume en conclusion. Vous le connaissez, c'est le psaume premier. Et voici ce que ce psaume dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Si vous restez proche du courant d'eau, si vous restez proche du Seigneur Jésus-Christ, vous allez porter du fruit en sa saison. Ne vous inquiétez pas. Si vous mettez les fruits de l'esprit en pratique dans votre vie, à un moment donné, ça va se voir. Ça va se voir dans votre foyer, ça va se voir dans votre vie d'église, ça va se voir dans vos relations avec les autres, ça va se voir dans les relations avec Dieu, ça va se voir même avec vous-même, parce que vous allez tout faire pour mettre en place dans votre vie les fruits de l'esprit. Et la Bible nous dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme des pailles que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jour de jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants qui mène à la ruine. Si vous mettez l'accent sur les mauvais fruits de l'esprit, la rivalité, les disputes, les divisions, ça va vous éloigner complètement de Dieu. Parce que vous allez mettre quoi en pratique? La chair. Et non pas l'Esprit de Dieu. Par contre, si vous mettez l'Esprit de Dieu en avant, eh bien, automatiquement, ça va se voir dans votre vie au quotidien. On est revenu des États-Unis. On était parti avec British Airways à Phoenix. Et à Phoenix, on est parti en retard. British Airways nous a dit que quand vous allez arriver en Europe, donc à Londres, vous serez automatiquement en retard. Donc je vais vous mettre dans une compagnie low cost qui va vous envoyer à Roissy Charles de Gaulle. Quel malheur! Quel malheur! Quel malheur il nous est arrivé. Compagnie low cost. Moi, je vous déconseille la compagnie low cost. Je vous le dis en toute honnêteté. Enfin, j'aime bien les bonnes compagnies, vous savez, celles que vous êtes sûr de partir d'un endroit et d'arriver à un autre endroit. Nous sommes partis avec American Airlines. Nous sommes partis de Roissy-Charles de Gaulle. Et nous sommes arrivés bien aux États-Unis à l'heure bien précise, même 10 minutes en avance. Compagnie low cost, moi je vous déconseille. 5 heures de retard. Ça c'est 5 heures de retard à Londres. Nous sommes arrivés ici à 2 heures du matin. On aurait dû arriver ici à 17h30. Moi je vous déconseille la compagnie low cost. Enfin, je ne vais pas faire la publicité pour les compagnies low cost, parce que ce n'est vraiment pas l'idée que je voudrais en retirer de cette prédication ce matin. Mais, écoutez bien, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné le meilleur. Je dirais, Dieu nous a donné la meilleure compagnie que nous puissions avoir, c'est l'Esprit de Dieu. Et bien souvent, nous donnons la victoire, non pas à l'Esprit de Dieu, mais nous donnons la victoire à Satan, parce que, tout simplement, nous considérons parfois notre vie à la légère. Par nos choix, par nos décisions, nous prenons malheureusement, trop malheureusement, dans nos vies, des choix qui nous éloignent complètement de Dieu. Alors, laissons tomber les compagnies low cost spirituelles. Laissez tomber cette affaire. Vous aurez toujours du retard. Avec Dieu, c'est bon. C'est le bon fruit que nous devons porter avec Dieu. Et Dieu va vous bénir si vous portez l'idée que Dieu est à la première place dans votre vie. Mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et donc le feuillage ne se frétit point. Amen.